Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
François Costantini, une nouvelle vient de tomber que me donne Jean-François Coulon-Désart qui est toujours un œil sur la dernière information. Donald Trump veut une capitulation de l'Iran. Voilà, c'est la dernière information, une capitulation de l'Iran. Il indiquait qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future. Comment est-ce que vous réagissez à ça?
Une capitulation, on en a vu deux dans l'histoire, celle de l'Allemagne et du Japon en 1945. Une capitulation, je rappelle qu'il n'y a rien à voir avec l'armistice. Hein. Il y avait eu, vous savez, dans le général de Gaulle, Maréchal Pétain, en 1940, la dispute entre la capitulation et l'armistice. Capitulation, ça veut dire qu'en fait, on s'en remet à une autorité d'occupation. Capitulation, ça veut dire que c'est simple, ça veut dire que les États-Unis prendraient la tutelle du pays.
Est-ce qu'il est supposé que les bombardements vont continuer?
Pas seulement les bombardements, c'est-à-dire l'élimination des Mollahs, et que les Mollahs capitulent, c'est remettre en les clés aux États-Unis. Ça s'est passé également de fait en Irak, hein, c'est-à-dire que les États-Unis prennent la tutelle du pays et ensuite réorganisent la reconstruction d'un État. Voilà. C'est ça une capitulation.
Ils ont fait des grosses bêtises en Irak, hein, dans la réorganisation de l'État.
Rien qu'en fait d'y aller, ils ont fait une bêtise déjà.
Oui. La deuxième fois.
Pareil pour nous en Libye.
Oui, donc ça ne vous paraît pas une bonne solution, François Costantini?
La capitulation, ce n'est pas une question de bonne solution. C'est une capitulation, ça veut dire tout bonnement et simplement que le régime, la République islamique est éliminée, ses dirigeants sont ou tués, ou éliminés, ou incarcérés, ce que vous voulez, et que je ne sais pas si Trump connaît le sens du mot capitulation, et ça veut dire qu'on s'en remet à une autorité d'occupation. C'est ça une capitulation. Rien d'autre.
En 1918, ce n'était pas une capitulation.
C'est un armistice.
C'est un armistice.
Avec un traité de paix ensuite, bon, qui a été
imposé dur
à l'Allemagne.
Pour l'Allemagne. Hein, quand même.
Mais l'Allemagne a justement demandé l'armistice pour éviter une invasion. Elle commençait à être envahie. Ensuite, il y a eu la révolution, la République qui s'est imposée le 9 novembre, et deux jours après, l'armistice était signé.
François Costantini, je rappelle que vous êtes géopolitologue, vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de Sciences Po Paris, vous avez enseigné à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur les relations internationales et le Liban, aux éditions Ellipse et aux éditions Libre, l'un et l'autre. Question, vous avez entendu, je vous ai vu réagir lorsque Emmanuel Razavi disait que l'armée iranienne était favorable à ce que Trump arrête les Mollahs, hein, c'est ça?
Est-ce qu'en 1979, l'armée du Shah a bougé? Non, elle n'a pas bougé en 1979. La SFR, il y a plusieurs raisons.
La SFR, les Mollahs.
Les Mollahs. En 1979, l'armée était l'armée du Shah. Je rappelle que c'était la troisième armée du monde et qu'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le Shah est tombé, c'est que les États-Unis ont voulu faire tomber le régime du Shah. Par la bêtise, la naïveté Carter qui disait que Roménie est un homme qui prie tout le temps, donc c'est forcément un homme bon. Hein, voilà jusqu'où mène
l'aveuglement,
la religiosité mal placée d'un certain nombre de personnes, y compris...
Et la méconnaissance historique.
Totalement. Et puis ensuite, parce que le Shah était en train notamment de reprendre la main, notamment sur la ligne américaine, sur le pétrole. Il avait peut-être médité les leçons de Mossadegh dans les 50, c'est que Mossadegh n'était peut-être pas un si mauvais personne que ça, qui s'était peut-être fait avoir par le renversement de Mossadegh. D'ailleurs, je pense que
Mossadegh, c'était
un premier ministre nationaliste de gauche qui avait décidé de nationaliser le pétrole. Dans un premier temps, le Shah a caissé, mais finalement, les États-Unis sont arrivés par une opération.
Et les Britanniques. C'est surtout les Britanniques qui avaient été spoliés à l'époque.
L'opération, notamment, dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, qui avait été menée, et Mossadegh avait été renversé. Aujourd'hui, même, vous discutez avec des Iraniens, même des opposants au régime iranien, des Iraniens exilés, ils vous disent qu'en effet, Mossadegh était un patriote, qu'on n'avait pas dû le renverser. Et le Shah en venait aux leçons de Mossadegh. Et n'oublions pas également que même si l'Iran avait signé le traité de non-prolifération sur l'arme nucléaire, on avait quand même des soupçons que le Shah commençait en effet peut-être à doter l'Iran de l'arme nucléaire, et les États-Unis ont décidé de balayer le régime. Vous savez, quand on veut se débarrasser d'un régime fort, puissant, nationaliste, eh bien on l'islamise. C'est ce qu'on a fait pour Saddam Hussein, c'est ce qu'on a fait également pour le Shah d'Iran.
J'ai toujours pensé que la révolution iranienne était vraiment le point de départ de l'internationalisation de l'islamisme. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ou pas? Parce qu'on est finalement passé du fameux panarabisme, donc c'est-à-dire du nationalisme arabe. Il n'y avait pas de régime islamique à l'époque. C'est vraiment le premier qui s'est installé.
Je termine juste à répondre à Marc Baudrier sur la question de l'armée. Après, je répondrai à votre question si vous me le permettez. L'armée n'a pas bougé. Alors, l'armée, il y a plusieurs questions. C'est que vous avez quand même une partie des Iraniens, une partie de l'armée qui sont des nationalistes, notamment qui sont favorables à la bombe, y compris des gens qui ne sont pas forcément favorables au Mollah. Et l'armée tient avec ça. Ensuite, l'armée, elle est quand même cernée par les passes d'Aran. Les passes d'Aran, les gardiens de la Révolution, c'est comme le parti nazi et l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que ce sont eux qui contrôlent véritablement l'État. Ce sont eux qui ont la puissance, la force, la répression, tout ce qu'on veut. Et l'armée est quand même placée... Il y a des services de renseignement de l'armée qui sont aux mains, notamment des passes d'Aran. Et les passes d'Aran sont très présents dans l'armée. Mmh. Alors, pour reprendre avec l'islamisme, en fait... internationaliste n'a jamais été chiite au départ. Il est sunnite, puisque la première idéologie, rappelons-nous, quand, elle vient des frères musulmans. 1928, les frères musulmans, pourquoi Assad al-Banna, le grand-père de notre ami du Tartuffe musulman qui va avoir des comptes à rendre avec la justice,
Tariq Ramadan,
c'est de créer les frères musulmans. Pourquoi ? C'est une réponse, en fait, à ce qui s'est passé 5 ans plus tôt à Constantinople, à Istanbul, c'est que Atatürk abolit le califat. C'est-à-dire qu'en fait, en abolissant le califat, il abolit 13 siècles d'histoire musulmane. C'est-à-dire que le califat, les successeurs de Mahomet, étaient des chefs politiques et religieux. Mustafa Kemal Atatürk l'abolit. C'est un choc considérable. Et le projet des frères musulmans, de l'islam sunnite, notamment radical, c'est de refaire le califat. Alors ensuite, il y a eu les salafistes, les wahhabistes, les takfiristes, qui voulaient c'était sunnite. Là, en effet... les schistes, comme vous l'avez dit, la révolution de 1979 est possible parce qu'il y a eu une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que le clergé chiite traditionnel est écarté en Iran. Rappelez quand même que le chiisme traditionnel, il n'est pas iranien, il est arabe, il vient d'Irak. Hein, les villes saintes de Bassora, Karbala, qui est la ville symbole du martyr d'Hussein, etc., est en Irak. D'ailleurs, il y a aujourd'hui, d'ailleurs,
reste des chiites. Non.
Ah bah ils sont 65%.
Ah oui, 65%.
Ah oui, ils sont l'essentiel et ils ont la main sur le pouvoir. D'ailleurs, en toile de fond aujourd'hui, il y a une récupération du chiisme historique par l'Irak, notamment Al-Sistani, etc., qui se profile. C'est une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que les chiites iraniens de Roumanie qui prennent le pouvoir sont des révolutionnaires. Non pas alors que le chiisme iranien est très traditionnaliste. Rappelez quand même que l'Iran n'est devenu chiite qu'au XVIe siècle. Quand la monarchie s'est fait vide pour se distinguer des Ottomans, justement pour ne pas être aspiré par l'Empire ottoman, à adopter le chiisme pour se distinguer. Mmh. Et parce qu'il y avait des postures également chez les persans qui étaient différentes du sunnisme traditionnel. Mmh. Alors là-dessus, c'est révolutionnaire. Rappelez quand même que les frères musulmans ont eu un rôle non négligeable, tous sunnites qu'ils étaient, pour appuyer la révolution roméniste. Il y a des liens consubstantiels qui existent aujourd'hui. Par exemple... avec le Qatar qui lui est plutôt sous domination de l'idéologie des frères musulmans, ce qui est une exception d'ailleurs dans les monarchies du Golfe, il y a eu une certaine proximité avec l'Iran.
Ouais. Alors, question François Costantini, on a un petit mot d'un auditeur qui nous dit le problème comme toujours c'est la confusion entre le religieux et le politique, en tout cas le chiisme est beaucoup plus intéressant que le cynisme. J'avais une question là-dessus,
que le sunnisme,
voilà.
C'est pas cynique.
Donc j'avais une question là-dessus, il n'y a pas de solidarité très visible des pays musulmans avec l'Iran, sauf si je me trompe. Ni des musulmans de France tellement avec l'Iran, même si Israël joue un rôle dans ce conflit. Est-ce que je me trompe complètement ?
Alors, il n'y a pas de solidarité. La solidarité qu'il y a, c'est avec les pays chiites, c'est-à-dire il y a notamment l'Irak qui a protesté, décrété plusieurs jours de deuil. Mais ça, c'est à mon avis, c'est plutôt stratégique. C'est pour récupérer en effet cette population chiite en Iran qui pourrait devenir orpheline en quelque sorte. Les pays arabes sunnites, aujourd'hui, l'Iran a tout fait pour se les mettre à dos. C'est-à-dire qu'ils ont quand même envoyé des drones, des missiles sur les bases américaines, mais ils ont envoyé en Arabie Saoudite, aux Émirats, à Bahreïn, au Qatar, à Oman, etc.
Incompréhensible d'ailleurs, Oman.
Tout à fait, Oman qui avait un rôle modérateur. C'est tout à fait compréhensible. incompréhensible. Je pense que les Iraniens veulent également mettre le doigt sur la contradiction pour eux, pour ces pays-là, notamment d'être musulmans, sunnites, mais d'être sous la couverture stratégique des États-Unis.
Et encore, Oman, c'est une composante de l'islam différente.
Alors, c'est un islam sunnite, mais traditionnel, différent, etc. Qui
beaucoup
reste sunnite,
plus souple.
Mais plus, disons, plus connu. Il y a plus de confréries, notamment de soufisme. Il est un peu différent. Mm. Et là, en effet, il y a quand même une fracture entre sunnites et chiites qui est importante. Et là, le régime iranien ne vient de faire que de la creuser, de faire écarter cette fracture. On peut penser là-dessus justement que la fracture va perdurer, et aujourd'hui les États du Golfe, en tout cas aujourd'hui, on sait que l'Arabie Saoudite ne rêve que d'une chose, c'est se débarrasser du régime iranien. Pourquoi ? Parce que le régime iranien depuis 1979 lui conteste toujours le leadership de l'islam. Rappelez-vous l'affaire notamment de la prise de la mosquée de la Mecque, et ça n'a pas jamais été rare au moment du fitr, du hajj ou des pèlerinages. Dans les tunnels des mosquées, iraniens et saoudiens se sont affrontés. Il y a eu plusieurs centaines de morts plusieurs fois dans les tunnels de la Mecque. Hein. Mm. Ils se sont affrontés manu militari à plusieurs raisons. L'Iran considère en tout cas que les Saoudiens sont des impies, enfin impies, parce qu'ils font venir les États-Unis sur la terre, sont eux sacrés de l'islam, notamment de la Mecque, et qu'ils ont trahi en quelque sorte l'islam. Ça, c'est le discours iranien. Alors, sur la modération chiite, c'est vrai que historiquement, le chiisme, si vous voulez, a une position, contrairement à ce qu'on voit. Il ne faut pas regarder l'Iran comme seul représentant historique du chiisme, même s'il en a une importance. Mais néanmoins, le politique et le religieux sont tout à fait indistincts dans le chiisme qu'on le signe. La différence qu'il y a eu, je rappelle, à l'origine, c'est qu'il y a eu, il y a eu un conflit entre ceux qui étaient les sunnites, la sunna, qui étaient favorables à la tradition et notamment à la succession légitime de Mahomet par ses compagnons, c'est-à-dire Abou Bakr Omar, à la mort d'Ousmane, ils ont choisi Moawiya, alors que d'autres, les partisans d'Ali en arabe, les chiites, ont choisi Ali, le gendre du prophète, avec la bataille de Karbala et l'écrasement notamment des chiites, de ceux qui allaient être les chiites à ce moment-là.
Mais aujourd'hui, on peut dire que les Iraniens, après 50 ans de molarisme, on va appeler ça, s'éloignent de la religion.
Bah,
ils prennent leur distance, en tout cas.
C'est un fait. C'est-à-dire que, déjà, d'une part, les Iraniens sont un très ancien peuple. Les Perses, c'est un peuple de vieille culture, etc. Et Iran, Aryan, vous savez ce que ça veut dire ?
Aryan.
Ça veut dire le pays des Aryens. Curieusement, alors les Aryens, vous savez, c'est quelque chose d'un peu mythique, parce que les Aryens, en général, sont un petit peuple de l'Inde, mais on les a un peu calqués sur les Indo-Européens, ce qui est un peu une excroissance, une certaine erreur historique, mais ils se réclament notamment des Aryens, de vieilles racines très anciennes qui sont anti-islamiques, et c'est très important de se réclamer d'anti-islamique. Déjà à l'origine, c'est un peuple qui n'est pas religieux, alors qui a été travaillé, une partie notamment les compagnes pauvres ont été travaillées par le clergé chiite. Et puis ce qui se passe toujours une chose, c'est que quand vous imposez la religion à un peuple qui n'est pas fait pour la religion, ben, y a une sorte d'écœurement aujourd'hui avec les religions, ces jeunes religions, notamment ces jeunes générations qui à la fois n'ont connu que l'origine des mollahs, mais connaissent, savent également ce qui se passe en Occident, parce qu'on se renseigne qu'il y a des familles qui sont expatriées, des familles qui reviennent, etc., eh bien font en quelque sorte un rejet vis-à-vis de la religion.
Allez, on va rester sur l'Iran et l'islam, mais on va revenir dans nos frontières françaises. On va avoir Xavier Hofer, on va lui demander s'il faut craindre en France des soubresauts et une insécurité liée à ce conflit.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Jean-François Coulon-Desart et Philippe Charlaise, en présence de François Costantini, géopolitologue, qui est avec nous aujourd'hui. Faut-il craindre en France des soubresauts et une insécurité liée à ce conflit ? Avec nous, Xavier Hofer. Est-ce que vous êtes là ? Bonjour, Xavier Hofer.
Bonjour.
Bonjour, merci. Oui, merci de...
Je suis là.
Merci.
Je voulais, si vous me permettez, rajouter un mot à la conversation précédente.
Alors, juste après que je vous ai présenté, parce que je voulais rappeler que vous êtes criminologue, directeur d'études au CNAM et spécialiste de la criminalité en France notamment, hein, vous suivez bien sûr l'actualité autour de l'Iran, et vous savez mieux que personne à quel point notre pays s'est communautarisé avec la présence de nationalités et d'intérêts divergents très nombreux sur notre sol. Alors, je voulais vous demander si la France peut subir des répliques sur son sol, des attentats par exemple, des répliques de ce conflit, et si oui, par qui et pourquoi, mais juste après votre réflexion et ce que vous avez entendu.
Voilà, donc je voulais rappeler au noble auditoire que un éminent savant français qui s'appelle Henri Corbin, qui, pour la petite histoire, a été le premier traducteur en français de Martin Heidegger, a écrit une énorme série de livres, quatre gros tomes, qui s'appellent « En islam iranien
». Et François qui démontre Constantini de la manière la
plus, voilà, qui démontre de la manière la plus flagrante que le chiisme perse, en dehors des deux, trois points fondamentaux de la référence à la religion abrahamique, au prophète Mahomet, etc., est quelque chose d'infiniment plus riche et plus complexe que la tradition sunnite, et comporte une richesse philosophique, avec la philosophie religieuse qu'on appelle la théosophie, qui sont incommensurablement plus profondes et plus anciennes, et qui se rattachent d'ailleurs par plusieurs racines à la religion zoroastrienne, à la religion de Mani, etc., à toute la culture perse traditionnelle, et que, comme bien entendu, l'islam originel est une religion sans clergé, il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite, eh bien, les Iraniens ont pris cette forme de l'islam qui leur permettait, comme les Polonais sont restés catholiques entre les protestants prussiens et les orthodoxes russes, ils ont fait une espèce de patriotisme à partir du chiisme perse qui a peu à voir avec ce qu'on enseigne à la Mecque en réalité. Donc ça, c'était un point que je voulais développer. Alors,
Sur les répliques de ce conflit sur notre sol, est-ce qu'on peut craindre des attentats par qui, pourquoi, est-ce que, à votre avis, vous qui connaissez bien le communautarisme en France et tous ces risques-là, est-ce qu'on peut avoir des craintes ?
Non, c'était la même chose, la même question après le 7 octobre, vous savez, après l'attaque sur Gaza. Alors là, à l'époque, il y a des dirigeants de partis politiques de droite, généralement, qui m'ont appelé en disant « Ah là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Je leur ai dit « Mais rien du tout, il ne va rien se passer du tout. » Et donc j'ai pris des paris à l'époque, je n'ai pas gagé les paris sur des caisses de champagne ou quoi que ce soit, parce qu'à l'heure actuelle, ma cave déborderait. Ouais. Donc, évidemment, il ne s'est rien passé.
Vous le regrettez.
Les voyous. Ben oui, j'aurais dû. Et donc, je ne vais pas faire ça avec vous et la joyeuse équipe qui est avec vous, parce qu'on est entre amis, donc on ne se fait pas des paris de filou entre amis, mais il ne se passera rien, quoi. Donc, pourquoi ? Parce que il y a deux risques, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a des liens de l'Iran avec des groupes islamistes en France ? Aucun.
Non, il y en a. C'est dans l'épaisseur du trait. Ils doivent contrôler deux, trois petits groupes d'individus, mais ça dépasse pas la centaine pour toute la France. Et d'abord, il n'y a pas de chiites en France. Et non, il n'y en a pas. Il doit y avoir 12 Hazaras afghans réfugiés ou alors. Quelques dizaines de Pakistanais chiites, parce qu'il y en a quand même au Pakistan, mais il n'y a pas de quoi remplir une mosquée quoi, dans toute la France, d'une part, et que deuxièmement, si par menace on entend celle de cellules terroristes pilotées par la République islamique d'Iran et qui passeraient à l'action, oui, c'est toujours un risque, parce que c'est pas difficile d'infiltrer un commando, on a vu pendant la guerre d'Iran-Irak, des attentats en France fomentés par des gens qui trouvaient qu'on n'aidait pas suffisamment l'Iran et qu'on aidait trop Saddam Hussein à l'époque. Et donc, ils se livraient à des attentats sur le sol français pour contraindre la France à rééquilibrer ses livraisons d'armes. Alors des opérations comme ça, qui sont des opérations de renseignement, à vrai dire, du service action d'un service de renseignement qui pilote des gens pour punir un pays ou pour l'inciter à ou pour l'effrayer ou pour le faire chanter ou Dieu sait trop quoi. Mais il y a surtout à droite en France une espèce de crainte folle et totalement irraisonnée du fait que les Lascars dans les cités hors contrôle autour des métropoles seraient une espèce de fédération de France du SLN qui attendrait un claquement de doigts pour se soulever.
Pas des bras armés des mollas en France. Est-ce que, par contre, ils auraient un impact sur le marché de la drogue, que vous connaissez bien ?
Laissez-moi finir.
Oui.
Ces gens-là sont là pour le fric. Ils ne sont pas là pour la révolution islamique ou pour n'importe quoi. Ils s'en foutent. Il n'y en a pas un qui est prêt à se faire retourner un ongle pour la cause sacrée de la Palestine ou de l'Iran ou de n'importe quoi. Ce qu'ils veulent, ils veulent pouvoir retourner au bled avec de quoi se faire construire une villa hideuse pleine de dorures, etc. Ou alors filer à Dubaï, c'était avant, parce que là, c'est plus le moment. Mais c'est pas, je veux dire, ils sont pas là et c'est pas des militants, hein, d'une part. Et deuxièmement, après le 7 octobre, il y a même pas, dans les cités, il n'y a même pas eu une seule bagnole de cramée ni rien. Ça a été silence de mort, on s'en fout.
D'accord. Et sur le marché de la drogue, vous savez, Courrier International écrivait en septembre dernier que pour la première fois depuis la révolution islamique en 79, Téhéran avait décidé de légaliser la culture du pavot à des fins médicinales. C'était ça. Ça avait un petit peu des allures de couverture pour lancer la culture de la drogue. Ça existe, ça, en France,
la drogue ? Mais vous savez, où il y a les plus grandes cultures de pavot au monde, à usage médicinal, c'est dans un pays qui est loin de toute espèce de, comment dire, velléité révolutionnaire. C'est en Tasmanie, en dessous de l'Australie. C'est là où les grands laboratoires américains cultivent des champs de pavots pour faire les opioïdes servant de produits analgésiques, de calmants pour les douleurs, etc., qu'on utilise dans la pharmacopée. Alors, en Iran, ils ont toujours eu, vous savez, les pays musulmans, en général, ils ont besoin de faire la fête. Alors, comme ils ne peuvent pas faire de la fête avec l'alcool, ils fument des pétards ou ils fument de l'opium. Voilà, c'est ce qui remplace. C'est l'équivalent de se procurer une ivresse dans les pays où l'alcool est interdit. Donc, il y a traditionnellement une opiomanie assez importante et villageoise, d'ailleurs, parce que le pavot pousse dans ces pays-là entre la frontière de l'Afghanistan et puis la frontière turque. Tout ça pousse dans les montagnes. Et donc, c'est traditionnel. Mais je crois que le régime avait envoyé des gardiens de la révolution à la frontière avec le Pakistan et la frontière avec l'Afghanistan qui ont assez largement décimé les réseaux parce que le régime islamique a toujours accordé une importance à l'étude des étudiants et ils savent que certains types de drogues, contrairement aux excitants, vous savez, le captagon ou des stupéfiants chimiques comme ça qui servent on appelle la drogue du djihad, vous savez, pour permettre de passer des excitants qui permettent de passer trois nuits sans dormir à combattre, etc. Que certaines formes de stupéfiants affectent les couches supérieures de la société et le régime islamique qui a passé beaucoup de temps à se doter d'une classe d'ingénieurs et tout, on n'a pas envie de les voir décimés par la drogue, donne un combat assez, enfin, à la manière des ayatollahs qui sont pas des tendres. Donc il y a eu pas mal de gens qui se sont fait estourbir là à la frontière entre l'Afghanistan et puis l'Iran, enfin dans toute la zone Afghanistan, Pakistan, Iran, du côté de l'Orient là. Et donc c'est plus par là que ça passe quoi. D'abord parce que l'Afghanistan a cessé de produire du pavot, c'est-à-dire que les talibans ont expliqué à partir de 2024 que c'était fini, et donc c'est fini, et la culture du pavot maintenant en Afghanistan est résiduelle et sert uniquement, pratiquement à la pharmacopée.
Donc on est vraiment sur un enjeu d'international et pas du tout de politique intérieure en France, ni sur la drogue, ni sur le terrorisme. Hein.
Alors, la drogue, à l'heure actuelle, règne, pour les années qui viennent, c'est la cocaïne, et naturellement, elle vient des trois pays où la coca est cultivée essentiellement. Maintenant, ça déborde un peu sur l'Amérique centrale, mais la cocaïne est essentiellement cultivée en Bolivie, au Pérou et en Colombie, et c'est de là que ça vient, quoi, par transport maritime, par des conteneurs qui sont infiltrés avec de la drogue à 90%. Voilà, c'est ça. Donc, le seul péril éventuellement terroriste, c'est des cellules dormantes infiltrées depuis des années en France par la République islamique d'Iran, qui n'est pas peuplé de petits saints, quoi. J'ai un ami, un expert de ces choses-là, qui a fait la liste des opposants iraniens assassinés par le régime iranien dans le monde entier. On en est à plus de 2000. Vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup de faire buter 2000 personnes entre, je ne sais pas, la Thaïlande, le Mexico ou des endroits comme ça. Ouais. Ils ont été très actifs, ils avaient un service action très actif pour détruire ses propres opposants. Et il y en a eu des dizaines d'assassinés en Turquie, par exemple. Ouais. Voilà, donc ça, oui, qu'à un moment donné, un commando suicide aille se jeter sous la voiture de je ne sais pas trop qui et se fasse sauter, oui. Mais ça, c'est un travail classique de surveillance par les services de renseignement. Mais s'agissant de nos propres banlieues qui s'échauffent chaque fois qu'il y a un petit lascar qui a été renversé par une voiture de police et là, il y a 5000 voitures qui brûlent, ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour et ça ne se produira pas.
Ça ne se produira
pas. Parce que les principaux intéressés s'en foutent, ils sont là pour rien, quoi.
Ouais. Eh ben, c'est très clair. Voilà. Merci infiniment, Xavier Offert. Je rappelle que vous êtes criminologue, mais tout le monde vous connaît, directeur d'études au CNAM et spécialiste de la criminalité en France. Merci de nous avoir éclairé sur cet aspect et un peu rassuré, pourquoi pas, aussi. Hein, merci, Xavier Offert.
À bientôt. Bonne continuation.
À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre avec le dernier volet et je voulais qu'on aborde l'aspect des énergies, notamment, et du pétrole. Nous avons à côté de nous notre spécialiste, Philippe Charlaise, et puis François Costantini. On aura quelques questions pour vous sur ce sujet aussi.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec François Costantini, géopolitologue, docteur en sciences politiques, diplômé de Sciences Po Paris. Vous connaissez bien le Moyen-Orient, vous avez écrit des livres sur la question. Et Philippe Charlaise, notre expert en énergie, en présence de Jean-François Coulon-Desart et de Franck Herriot, bien sûr. François Costantini d'abord, et puis ensuite, on demandera à Philippe Charlaise, quel rôle joue le pétrole dans la crise actuelle de l'Iran? Est-ce que ça n'a absolument rien à voir ou est-ce que finalement c'est l'enjeu de ce conflit?
C'est un enjeu, mais c'est pas même pour les autres. Spécialiste de l'énergie répondra sans doute mieux que moi. Je pense que Donald Trump joue également une partie de billard à trois bandes et que la troisième bande, c'est la Chine. Il a toujours la Chine dans le viseur. La proportion de pétrole qui vient du Proche-Orient aux États-Unis a longtemps été autour de 20%. Aujourd'hui, je crois qu'elle est en dessous de 15%, 10-15%. Par contre, pour la Chine et l'Inde, on est à près de 80%. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour les Européens, c'est moins. Je crois qu'on est autour de 20% pour les Européens là-dessus. Et en effet, c'est la Chine surtout qui est touchée. Le Japon, même encore plus, par exemple. Même si la Chine a commencé à se dire, si je rappelle que le pétrole et le gaz que les Européens n'achètent plus aux Russes, il ne se perd pas dans la nature.
Il est acheté
massivement par la Chine et par l'Inde. Il faut dire le temps juste que la Russie réoriente ses oléoducs et ses gazoducs, ce qui est déjà en partie fait. Je vous rappelle que les Chinois sont capables de vous construire des gazoducs et oléoducs en un temps record. Hein. Ils vous construisent un hôpital en une semaine, donc un oléoduc, un gazoduc, ils peuvent vous le construire en quelques mois. Hein. Ça va très vite, il n'y a pas de question de préemption des terrains, de juge de l'expropriation qui intervient chez eux, c'est du fait, il ne faut pas oublier.
Mais ils font toujours les enfants en 9 mois.
Hein. Pardon ?
Mais ils font toujours les enfants en 9 mois.
Mais un jour, ils trouveront le moyen peut-être d'en faire plus. On ne sait jamais. On sait jamais
avec le progrès.
On sait que les Nord-Coréens font du clonage humain, présumablement. Donc, eux, ils sont capables d'en faire peut-être autant.
C'est un autre sujet.
Ou avec de l'intelligence artificielle. Mais en effet, l'énergie est un enjeu, mais ce n'est pas le même entre les Européens, les Américains et surtout la Chine.
Ouais. Philippe Charlaise, donc là, très concrètement, chez nous, en France, on a vu que l'essence augmente. Il y a des gens qui commencent à paniquer. Moi, j'ai fait mon plein, mais j'en avais plus. Mais. est-ce qu'il faut avoir peur de l'évolution du prix du pétrole en France et pourquoi?
Alors peut-être quelques petits chiffres pour commencer. Hein. Donc
voilà.
on avait un baril de pétrole qui était environ à $60 fin de l'année dernière. Il est passé aujourd'hui, on en discutait juste avant l'émission, juste à $90. Donc ça fait quand même une augmentation de 50%. Et en fait, quand on fait un petit calcul de coin de table actuellement, $10 d'excédent par rapport au baril, ça correspond à peu près à 6 centimes sur le litre de SP95. Donc, c'est-à-dire que globalement, avec $30 de plus, ça veut dire qu'on a déjà pris une vingtaine de centimes. Et puis, au début de l'année, là, ça n'a rien à voir avec la guerre Irak-Iran, et les certificats d'économie d'énergie, qui, entre parenthèses, ne servent à rien, mais enfin, ont de nouveau créé un différentiel de l'ordre de 6 centimes. Donc, on n'est pas très loin des 30 centimes. Donc, c'est-à-dire que, globalement, on était à 1,60 au début, même un petit peu en dessous d'un 60 pour le diesel. Et puis là, on fonce droit, si ça continue, assez rapidement vers les 2 euros.
Oui, mais sauf que ce pétrole qui est dans les cuves, là, actuellement, là, on l'a acheté à $60.
Oui, mais ça change.
Donc, on pourrait le revendre au même. Ah bah si, il y a bien quelqu'un qui se sucre au passage,
Mais malheureusement, d'abord,
on écoute chez le professeur Charlaise.
D'abord, on ne va pas nécessairement tout de suite toucher à ces stocks stratégiques, ça c'est la première chose. Donc on continue quand même à essayer de s'approvisionner par le marché. Il faut savoir que le marché pétrolier est un marché mondial. Alors, vous avez un peu raison. Cela étant, les stocks, c'est généralement du pétrole brut et pas du pétrole raffiné. Or, nous avons fortement baissé nos capacités de raffinage en Europe pour des raisons et de mauvaises raisons. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même bien soumis au marché mondial du pétrole. Alors, néanmoins, c'est marrant parce que j'étais ce matin sur Sud Radio pour discuter de ça avec Valérie Expert. Et on a interrogé un certain nombre d'automobilistes, si j'ose dire. Et donc,
vous nous avez réservé les scoops.
Incontestablement, il y a des effets d'opportunité puisqu'on voit des augmentations un peu partout en France. Avec parfois des proportions qui sont tout à fait inconsidérées par rapport à l'augmentation. Donc il y a quelqu'un qui était sur 7 et qui expliquait que le litre d'essence en une semaine avait augmenté de 40 centimes. Donc ça veut dire qu'il y a incontestablement des effets d'opportunité.
Il y a des stations qui ne toucheraient
pas les États-Unis parce qu'il faudra qu'ils restent le premier producteur mondial.
On revient à ce que disait François Costantini. On a une inversion de la situation depuis 20 ans. Entre la Chine et les États-Unis. Donc les États-Unis étaient dépendants du pétrole. Donc quand on dit dépendance pétrolière, c'est le pourcentage de pétrole que l'on importe par rapport à sa consommation. Donc quand on dit qu'on est dépendant à 70%, ça veut dire qu'on importe 70% de ses besoins. La France, c'est 100%. La France ne produit pratiquement pas de pétrole, donc elle est dépendante à 100% du pétrole. Et donc en 2006, les Américains, c'est le pic de dépendance, on était à peu près à 70% de dépendance. Et donc ça veut dire qu'à l'époque, effectivement, un certain nombre de conflits étaient... Pour les Américains, stratégique pour leur approvisionnement pétrolier. Et aujourd'hui, première année historique d'ailleurs, les Américains non seulement n'importent plus de pétrole, mais ils en exportent. Ils en consomment 18 millions de barils le jour et ils en produisent 20 millions de barils
le jour. Ils en exportent en France notamment.
Et donc, ils exportent essentiellement du gaz naturel liquéfié en France. Ah bon. C'est pas du pétrole.
Ah bon.
La Chine, au contraire, qui était exportatrice en 2000, aujourd'hui consomme 16,5 millions de barils le jour et n'en produisent que 4,5. Donc on imagine, ils sont, comme vous l'avez dit, à 80% dépendants de leurs importations pétrolières. Donc incontestablement, je partage tout à fait votre avis, derrière l'attitude de Trump. Parce que finalement, on comprend assez mal aujourd'hui pourquoi est-ce que Trump dépense autant d'argent pour agir en Iran. Pour les Israéliens, vous l'avez expliqué, c'est complètement existentiel. Autant pour les Américains, il n'y a rien d'existentiel. Et donc, ce que je pense, c'est que c'est un moyen de pression absolument très fort vis-à-vis des Chinois. Parce que si les Chinois ont bien une épine dans le pied, c'est le pétrole. Ils ont pratiquement la main sur toutes les matières premières, sauf le pétrole.
Rappelez également que l'Iran et la Chine ont un accord, notamment de coopération à haut niveau, depuis 3 ans. Important. Alors,
c'est le quatrième producteur de pétrole mondial, l'Iran, 5 millions de barils
par jour. Sauf l'assistance militaire. Mais il y a une coopération en termes militaires, même nucléaire, enfin pas nucléaire, mais militaire, industriel, énergétique.
Que ça passe par le détroit d'Ormuz pour aller en Chine. Donc ils se tirent une balle dans le pied, les Iraniens.
Oui, mais encore une fois, on en revient au régime totalitaire des Mollahs qui est prêt à se saborder pour aller jusqu'au bout. On revient à la discussion avec les pragmatiques qui peut-être veulent essayer de sauver un peu les meubles et les idéologues qui finalement ne voient même pas...
François Costantini.
Un rappel quand même, je crois que de mémoire, que 30 à 40% de l'essence qui est servie dans les automobiles iraniennes est importée. En plus, ils ont cette performance, entre guillemets, remarquable, les Iraniens,
comme
l'Algérie ou d'autres, de vendre massivement du brut, mais d'importer
des produits raffinés. C'est assez classique. Ouais. Je dirais pour conclure qu'en fait, il y a deux grands pénalisés dans cette guerre. C'est la Chine d'un côté et l'Europe. Et vous avez deux grands vainqueurs, les Américains, mais aussi les Russes. Parce que l'augmentation... L'augmentation du prix du pétrole et du gaz, notamment naturel liquéfié, qui a pratiquement doublé, lui, depuis le déclenchement des hostilités, est très favorable aux Russes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez deux grands gagnants incontestables, les États-Unis d'un côté, qui sont autonomes, et la Russie de l'autre,
par rapport à ses exportations. Est-ce que les Français vont payer plus cher leur essence?
Oui.
Oui.
Voilà. Alors, grand gagnant en France, l'État. Combien de taxes sur un litre d'essence?
55%.
55%. Alors, plus l'essence augmente, plus l'État gagne.
Attention, il faut quand même moduler. Vous avez dans les taxes, dans les 55%, une part fixe qui est la TICPE et qui, elle, ne varie pas avec le litre d'essence. Mais la TVA s'applique au prix du litre d'essence sans taxe. Et donc là, s'ajoute effectivement. L'État est plutôt bénéficiaire, absolument.
Et on avait inventé, je crois, sous Jospin, la TICPE flottante, sur laquelle on est revenu, d'ailleurs.
Voilà. Et donc elle est fixe aujourd'hui.
Qui baissait en fonction de l'augmentation.
Oui, absolument. Elle est fixe aujourd'hui.
Voilà. François Costantini, dernière question. Est-ce que vous voyez ce conflit durer très longtemps? C'est difficile de le dire, évidemment. Je vous demande un peu de regarder la boule de cristal. Et puis, est-ce que l'Iran, question subsidiaire, est prêt pour une démocratie, à votre avis?
Alors, sur la première question, le conflit durer, ça dépend. Vous savez, Trump est quelqu'un d'assez insaisissable. Imaginons qu'il ait trouvé, alors... Là, ça n'en prend pas le chemin parce qu'apparemment, aux dernières informations, le conseil des experts, les 80 membres qui désignent le guide suprême, mais qui le contrôlent et peuvent le destituer. On l'a oublié un peu, le guide suprême n'était pas tout à fait le maître, puisque le conseil des experts, qui est élu en quelque sorte, c'est un espèce de conclave en quelque sorte, peut également avoir le droit dans la constitution iranienne de le destituer. C'est lui qui a véritablement le pouvoir. Amènerait vraisemblablement à désigner le fils Khamenei. Pourquoi? Pour une raison, c'est que les Khamenei tiennent les Pasdaran. Ils sont très proches des Pasdaran. Ils ont également quelqu'un comme Ari Larijani, qui était le négociateur nucléaire. Tout ce pouvoir assez concentré fait qu'on s'écarterait d'Arefi, par exemple, ou du petit-fils Roméni. Mais ce sont les informations qu'on a. Et je pense que Trump a dit dans une de ses boutades, je ne sais pas si c'est une demi-boutade ou une boutade totalement, qu'il y en avait deuxième, troisième et qu'ils avaient été éliminés. Donc ils cherchaient après éventuellement, dans un cas d'une stabilisation avec du régime, avec d'autres personnes. Là, vraisemblablement, le conflit est là pour durer. En tout cas, ceux qui veulent le faire durer sont les Israéliens. Eux, en tout cas, leur intérêt, c'est que cette fois-ci, eux, ils veulent mettre tous les moyens, éliminer déjà le Hezbollah et, si possible, ramener pratiquement à zéro ou à epsilon la menace iranienne, c'est-à-dire l'élimination notamment des capacités nucléaires et des capacités de frappe. Ça, c'est certain.
Il
faut trouver les 400 kilos d'uranium. Pour l'instant, on ne les a pas trouvés.
Ils ont bougé. Ensuite, sur la démocratie, oui, je pense que le peuple iranien est un peuple très évolué, un vieux peuple, un peuple cultivé, un peuple tout à fait remarquable. Et je pense que c'est un peuple qui est prêt pour la démocratie. La seule question, vous savez, c'est quelle démocratie? Et c'est que la question qui va se poser, c'est la question du maintien de l'entité iranienne telle qu'elle est, notamment avec les Kurdes qui peuvent bouger, mais on parle également des Azéris. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui se tient en retrait, qui attend la mise peut-être de Ramazani et Erdogan, avec notamment peut-être une dissociation formelle ou juridique de l'Azerbaïdjan iranien, qui est la plus grosse minorité aujourd'hui en Iran. C'est la question qui serait posée sur la démocratie. Est-ce que la démocratie, ce serait une démocratie iranienne ou ce serait une démocratie à l'irakienne où finalement les chiites ont voté pour les chiites, les sunnites pour les sunnites et surtout les Kurdes pour les Kurdes avec un Kurdistan irakien qui est un proto-État pratiquement indépendant aujourd'hui. C'est la question qui se pose. Oui, le peuple iranien est a fortiori un peuple mûr pour la démocratie, ça c'est certain.
Allez, on en termine. Nous avons beaucoup de réactions de nos auditeurs, du conflit irano-judéo-américain. Il est à noter que les belligérants sont les fidèles des trois principales religions monothéistes qui prient le même Dieu. N'oublions pas qu'il est unique. Moi, je ne suis pas du tout sûr que ce soit le même Dieu, mais lequel tient des discours bien différents selon les fidèles qui il s'adresse. Ça, c'est certain. Nous sommes en plein dans le monde métaphysique du révélé. Voilà ce que nous dit un de nos auditeurs. Un autre auditeur nous dit « Le problème, c'est l'ignorance occidentale des cultures non occidentales. Le régime des Mollahs est une catastrophe par opposition à un retour de la monarchie, nous dit-il, mais c'est un peu comme si les cathos tradis prenaient le pouvoir en France. Ça ne signifie pas que les dits cathos tradis sont mauvais. » J'ai du mal à faire un peu le parallèle.
Oui, du mal avec les cathos tradis. Nous avons eu le pouvoir en France. Nous avons, sous la monarchie absolue, droit du vin... qui était au pouvoir, je ne pense pas que les régimes étaient particulièrement féroces en France, contrairement à tout ce qu'on a
pu
faire. Quoi. Il n'y a pas comparé les Mollahs avec les catholiques traditionnels.
Là, c'est une théocratie, ce qui n'a jamais été le cas en France.
Ah. Oui, en plus, n'oublions pas que 40% de nos rois ont été excommuniés, donc ce n'était pas tout à fait une théocratie.
40% donc ça
je crois. Alors, je voyais, il y a un livre qui est sorti récemment sur les rois excommuniés, je ne sais plus chez quel éditeur, et je crois qu'on est monté 40%, ça paraît beaucoup. Quand vous prenez à partir notamment de Philippe le Bel jusqu'à Louis XIV, il y a eu toute une série d'excommunications. Je crois qu'il y a eu un taux assez important.
Ah, de mis à l'index peut-être,
c'était une lutte de pouvoir aussi. Ouais. Mais
en tout cas, ça s'est jamais bien passé entre à partir de Philippe le Bel. Ça s'est jamais bien passé. Il y a aucun roi de France qui a caissé au pouvoir du pape. De toute façon, il a toujours gardé le gallicanisme a toujours été plus ou moins présent depuis Philippe le Bel.
Il a fallu attendre l'empereur Napoléon.
Et encore lui, ça s'est encore mal passé.
Oh, oui, mais mieux pour certains.
Alors, un autre auditeur nous dit que les Kurdes veulent un État indépendant.
Depuis 1918, on le sait, ça.
Emmanuel Razavi disait pas tout à fait ça.
Le traité de Sèvres leur donnait un État. Je rappelle, un État kurde. Les Kurdes, aujourd'hui, sont non seulement en Iran, en Irak, en Turquie, en Syrie, en Azerbaïdjan.
Et c'est 34 millions de personnes.
Ils sont 5 pays. Les Kurdes veulent un État. Ils ont une langue. Tous les Kurdes voudraient un État aujourd'hui. C'est en quelque sorte les réelles politiques qui empêchent qu'il y ait un État kurde. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que, d'après l'issue qu'apprend, que les Kurdes iraniens, qui, il faut le rappeler, sont quand même, paradoxalement, au plan culturel, les moins éloignés des Iraniens, les Kurdes iraniens. Puisque les Kurdes, vous savez, on l'enseignait à l'époque, on faisait véritablement l'histoire, notamment l'histoire antique, on nous enseignait les Mèdes et les Perses. Les Kurdes sont probablement les descendants des Mèdes. C'est-à-dire, ils sont persophones. Le nouvel an kurde, c'est le nouvel an iranien, ils ont le même calendrier. La seule différence qu'il y a, qui est notable, c'est que les Kurdes ne sont pas chiites, mais sunnites. Il y a une exception avec des Kurdes à Lévis en Turquie, une partie des Kurdes.
Et sinon, est-ce que dans les oppositions actuelles, il y a toujours ou pas des communistes ?
Ils sont tous morts.
Les communistes, ou alors j'ai le parti Today, vous savez.
Qui avait été éliminé
Il a joué le rôle d'idiot utile. Les communistes qui étaient des intellectuels, vous savez que c'est comme en mai 68, c'est la bourgeoisie dorée de Téhéran qui a fait la révolution. Du chat complexé, pro-communiste, etc. C'était les filles qui portaient les mini-jupes et les types qui écoutaient la musique occidentale qui ont fait la révolution contre le chat. Notamment le seul membre du parti communiste qui a entre guillemets pris le bon bord, c'était Mahmoud Ahmadinejad, le président, qui avait d'ailleurs un côté populiste dont il a vérité, qui avait commencé en allant du Today, qui avait compris que les Mollahs avaient pris le pouvoir et qui avait bifurqué vers les Mollahs.
Il vit toujours.
J'ai vu en France, notamment, il m'a semblé qu'en France, je ne sais plus si c'est la France insoumise ou le Parti communiste, localement, qui ont fait une réunion avec des membres du Today, du Parti communiste iranien. Donc, visiblement, il existe toujours, mais il a été totalement décapité.
Ouais, ces gens-là sont toujours très bien en France.
Il ne fait pas partie des oppositions dont parlait...
Non, je pense qu'on n'en veut pas trop, vu le rôle...
Dont parlait Emmanuel Razavi.
Comme je le disais, vu le rôle d'idiot utile qu'ils ont joué au moment de la révolution iranienne, on n'en veut pas trop, quoi.
La France insoumise joue exactement le même rôle en France vis-à-vis de l'islam aujourd'hui.
Exactement. Elle prépare. Je pense que si un jour il y avait une révolution islamique en France, les premiers à passer à l'as, pour un certain nombre de raisons, ce seraient les gens de la France insoumise.
C'est la vertu de la révolution, elle dévore toujours ses enfants.
Voilà. En l'occurrence, ses pères. Et puis un de nos auditeurs revenait sur mon édito, là, à l'écoute de votre émission en cours. Nous dit-il, la volonté de Macron de partager notre dissuasion nucléaire au profit de l'Union européenne, n'est-ce pas le premier pas pour construire enfin une Europe puissance?
Marc, que vous n'allez pas être d'accord.
La formule de Macron relayant ses fondements économiques au second plan. Oui, c'est un peu ce qu'on sent, mais en même temps, dans les mots, c'est difficile de l'établir.
Le seul projet, Emmanuel Macron, c'est le seul projet dans lequel il n'y a pas de en même temps.
C'est absolument. C'est la seule colonne vertébrale du personnage.
Le fédéralisme européen et la dissolution. Rappelons également Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, a dit explicitement qu'il fallait que la France cède son siège de membre permanent
de l'économie.
Il fallait que la France cède son siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'Union européenne. Et rappelez également qu'il y a quand même le traité d'Aix-la-Chapelle qui dit que France et Allemagne ne peuvent avoir au plan diplomatique dans les instances nationales que des positions concertées. Déjà, il y a ça. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a fait un discours dans lequel il n'est pas tout à fait sorti du bois sur la France ouvrière, parce qu'il est quand même attendu au tournant. Rappelons quand même que le Rassemblement national lui a promis notamment une procédure de destitution qui, à mon avis, se justifierait totalement s'il en venait à envisager un partage de l'arme nucléaire.
Et l'Union européenne, comme disait Kissinger, quel numéro de téléphone
C'est son projet d'après-présidence, je pense. Lisez le rapport Verhofstadt qui a été voté notamment en 2024, au terme de la dernière législature européenne, avec la fusion des présidences de la Commission et du Conseil, notamment, c'est le rêve chimérique d'Emmanuel Macron d'y accéder un jour.
Oui, c'était aussi le rêve de Giscard.
Absolument évident. François Costantini, merci infiniment d'être venu nous voir et de nous avoir éclairé sur ce dossier velu, si on peut dire. Vous êtes géopolitologue, docteur en sciences politiques, diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez enseigné à l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth et je recommande vos livres, hein, Les relations internationales en fiche chez Ellipse et Le Liban, histoire et destin d'une exception aux éditions Libre. Et puis, évidemment, votre émission mensuelle sur Radio Courtoisie.
Un lundi sur quatre.
Ouais. Un lundi sur
chaîne, je crois, le 23, il me semble. Ouais.
Le 23,
le 20,
voilà.
Le 26, je ne me souviens plus. Quoi.
Bon, à vérifier.
Mais vous serez là.
À vérifier, oui. Mais vous y serez. Merci.
Mais c'est moi, Costantini. Bonne fin de soirée, bonne fin d'émission.
Vous reviendrez, j'espère. Hein. Voilà, trois semaines après le lynchage absolument horrible de Quentin, on revient en France. L'État macroniste cible l'extrême droite.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Jean-François Coulon-Désart et Philippe Charlez, les trois mousquetaires toujours présents. Trois semaines après le meurtre sauvage du jeune Quentin, le 12 février à Lyon par des militants d'ultra-gauche liés à LFI, et deux semaines après une vague d'arrestations, l'enquête se poursuit. Il y a eu deux nouvelles arrestations. Ce mercredi 4 mars, selon Le Parisien, 11 personnes avaient été interpellées dans plusieurs départements, dont 7 soupçonnées d'avoir participé aux violences. Les 4 autres étaient accusées de les avoir aidées et soustraits à la justice. Les 7 personnes interpellées sont soit membres, soit proches de la jeune garde créée par Raphaël Arnaud. Voilà où on en est précisément de cette affaire sur le plan de la justice. Ça fait donc 13 personnes interpellées. Et il y a une deuxième information qui date de ce mercredi 4 mars. Elle était initialement confiée à la division de la criminalité territoriale du Rhône, l'enquête. Eh bien, cette enquête est désormais co-saisie par la sous-direction antiterroriste. Et cette unité spécialiste intervient notamment dans les dossiers qui est lié au mouvement politique violent, ce qui explique son implication dans cette affaire. Alors, on peut constater que, comme l'avait dit ici même l'ancien patron de la police judiciaire Christian Flech, la police a fait le boulot, reste à ce que la justice fasse le sien. Alors, on va en parler, mais d'abord, l'implication de la sous-direction antiterroriste, qu'est-ce que ça signifie, Franck Herriot ?
Ça signifie que c'est une enquête au niveau national, c'est la sous-direction antiterroriste qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire, en opposition à la direction régionale de police judiciaire dans la préfecture de Paris, qui a autorité
sur... Donc là, on quitte Lyon.
Hein. Oui, on est sur le territoire français. Ouais. La direction régionale de la police parisienne, donc c'est celle qui a autorité sur Paris et la Petite Couronne, alors que la sous-direction qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire a compétence sur l'ensemble du territoire national. Alors, il faut bien faire une différence entre le renseignement, la DGSI, qui travaille sur l'antiterrorisme et qui travaille sur tous les mouvements terroristes ou supposés tels, alors que la SDAT mène une enquête judiciaire. C'est-à-dire que son rôle, c'est de collecter l'information de sous-procès-verbaux pour monter un dossier qui va servir à la justice pour le procès final. Donc on n'est pas dans le renseignement pur.
Je comprends. D'accord. Ah oui, on est vraiment dans le...
Même si la SDAT et la DGSI peuvent collaborer. D'ailleurs, la SDAT est dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret.
Là, ça signifie qu'en fait, cette sous-direction antiterroriste, le mot est quand même parlant, va se pencher sur les éléments au niveau national qui peuvent éclairer la justice.
D'autant que la SDAT sur cette affaire. A une vingtaine d'antennes en France. Ouais. Hein, qu'on appelle des groupes antiterroristes qui sont répartis sur tout le territoire dans les plus grandes villes. Et donc oui, ça va être une collecte nationale déterminer les responsabilités, les ramifications. C'est du renseignement, mais si vous voulez, la différence, le renseignement n'a pas de compétences ni d'obligations judiciaires. Le renseignement, c'est du renseignement, c'est de l'information. On va collecter de l'information pour essayer de comprendre les ramifications, les implications, les interactions.
Ils vont chercher, est-ce qu'ils vont chercher notamment qui a donné les ordres ? Parce que c'est ça, la vraie question.
C'est l'implication. Je souhaite d'apprendre la justice. Qui a donné les ordres ? Qui a créé
ça ?
On va, dans ces cas-là, on remonte presque au début de l'histoire, c'est-à-dire c'est-à-dire qui a créé tel groupe, qui a donné des ordres, qui... Le procès, quand il faut qu'on arrive au procès, il faut que le dossier soit complet, pour que le procès soit...
Instruit.
Pas instruit, mais que le procès soit efficace. Un procès, c'est un moment de vérité. C'est le moment où on va tout connaître publiquement, parce que là, l'enquête, évidemment, on va pas en connaître tous les éléments. Mais le procès, c'est le moment où on va connaître la vérité toute la vérité sur un dossier. Ouais. Et c'est ce que va être chargé de faire, donc ce qu'on va être chargé de faire, les officiers de police judiciaire de la sous-direction antiterroriste.
Alors vous avez vu que Raphaël Arnaud, qui est donc le député dont les assistants parlementaires, ont été impliqués très gravement dans cette affaire. Pour l'instant, n'a pas eu affaire à la justice, à ma connaissance. Est-ce que ça vous paraît durable?
On n'a pas eu affaire à la justice, mais ils ont eu probablement affaire aux enquêteurs.
Raphaël Arnaud, qui est au-dessus.
C'est le boulot des policiers. Le boulot des policiers, c'est de les entendre. Les gardes à vue, c'est pas le juge qui interroge les suspects. La garde à vue, ce sont les policiers qui les mènent, ce sont les policiers qui entendent, ce sont les policiers qui posent les questions, ce sont eux qui enquêtaient en plus. S'ils enquêtent sous l'autorité du magistrat, évidemment. Mais ce sont eux qui ont les mains dans le cambouis, si j'ose dire.
Alors, on peut être... un peu surpris tout de même de la réaction du pouvoir. Je recommande la lecture à ce propos de l'article de notre ami Jean Caste sur Boulevard Voltaire. Après le meurtre de Quentin, un tour de vis contre l'extrême droite. Le 24 février, Emmanuel Macron avait réuni les ministres de l'Intérieur et de la Justice, vous vous souvenez, ainsi que les services de renseignement, pour cibler les groupes d'action violentes qui sévissent et ont des liens avec les partis politiques. Je cite, résultat, on a la dissolution du bloc montpelliérain et selon la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, ils auraient commis des appels à la violence, à la haine, à la discrimination. Moi, j'ai lu le Midi Libre, 20 personnes, le bloc montpelliérain.
Après, ce sont des décisions politiques, mais vous savez, tout ce qui concerne les groupes extrémistes, ont toujours été infiltrés. On a eu une époque, les renseignements généraux, c'était leur pain quotidien. Il n'y avait pas d'enquête judiciaire pour autant, mais tous les pouvoirs sont à la pêche d'informations concernant tous les pouvoirs. Quand on parle de la sous-direction antiterroriste, il travaille aussi bien sur l'extrême droite que sur quand il y avait le terrorisme basque, quand c'était le TA, quand ce sont les Corses. Il n'y a pas de... Le pouvoir en place se renseigne sur tout ce qui existe.
Oui, enfin, il y a quand même une prédisposition apparemment à se renseigner les groupes de droite que sur les groupes de gauche.
Il faut faire la différence entre la communication... La communication politique a fortiori, et puis la réalité policière, la réalité judiciaire, la réalité historique.
Oui, parce que Maud Bréjon, donc porte-parole du gouvernement, a prévenu que trois autres dissolutions de groupuscules violents d'ultra-gauche comme d'ultra-droite feront suite. Alors, il n'y a qu'un seul de ces trois groupes dont on connaît l'identité, c'est un groupe de droite qui s'appelle Patria Albigès. Personne ne connaissait jusque-là, en tout cas pas moi. Mais Jean-François Coulon-Desarts, ça vous dit quelque chose, Patria Albigès?
Il vous a pas échappé que les élections municipales vont avoir lieu. Ouais. Donc il faut quand même ménager la chèvre et le chou.
La seule chose qui m'interpelle, c'est qu'il me semble que la jeune garde a été dissoute par le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est-à-dire Retailleau.
Il y a eu un recours face au Conseil d'État.
Et qu'il y a un recours au Conseil d'État, et que ça traîne, et qu'il n'y a pas de...
Surtout après l'événement, je croyais que ça allait aller.
Et ça traîne, on ne sait pas quand ça va arriver.
Jean-François, le groupe a été dissous.
Oui, mais ils ont fait appel.
Mais il reste dissous.
Est-ce que l'appel est suspensif?
Ils ont toujours un compte actif sur Twitter. Incroyable.
Voilà, donc c'est bizarre.
Incroyable.
Je crois qu'il y a même c'est la Ligue.
Ils avaient un stand aux dernières universités d'été de LFI.
Absolument.
Donc ça est assez bizarre.
Je voulais quand même faire une remarque. Charlotte. Oui. C'est que j'ai trouvé quand même dommage à cette. Cet hommage qui a été fait à Quentin dans beaucoup de dignité. Moi, j'ai quand même regretté qu'il y ait un certain nombre de groupes de personnes masquées. ça me gêne, si vous voulez. Donc, ouais, c'est-à-dire que globalement, dans un hommage comme ça, je ne comprends pas pourquoi il y avait des gens masqués. Mmh. Or, il y en avait, ça c'est incontestable, on le voyait. Donc ça, je le dis publiquement que je regrette...
Le fait que les antifas se masquent systématiquement, ça vous choque aussi.
Mais évidemment. Mais ce, voilà. ce que je veux dire, c'est que ça ne justifie pas que dans un hommage, on vienne masquer. Alors certains, c'était avec des masques sanitaires et d'autres, c'était carrément avec des cagoules et qui étaient remontées. Donc, si vous voulez, je suis désolé, ça me gêne. Mmh,
Philippe, ouais, vous voulez pas enlever d'accord. votre cagoule, là?
Non.
Non, Philippe Charest n'a pas de cagoule.
Je me doutais bien que ça conduirait à la moquerie, mais c'est pas grave.
Non, mais juste pour finir, restons sérieux parce que le sujet est vraiment tragique. Frédéric Loss, qui est le secrétaire général du syndicat des commissaires de police, a mis les pieds dans le plat. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans un article qui a été publié sur le site Atlantico. Et il dit, on surveille de très près les groupes d'ultra-droite et beaucoup moins les groupes d'ultra-gauche.
Ça, j'en suis convaincu.
Hein, il a écrit un livre, Insécurité, stop à la descente aux enfers, avec Frédéric Ploquin chez Fayard. Mais le titre de cet article sur Atlantico le 3 mars, il y a quelques jours, était assez révélateur. Le syndicat des commissaires de police confirme que la menace de l'ultra-gauche n'a pas été suffisamment prise en compte ces dernières années.
C'est ce que Gilles William Goldnadel appelle le privilège rouge. Très bien défini.
Ouais, Franck Herriot, ça vous surprend ?
Non, pas plus.
Vous qui connaissez bien la police et la justice.
Non, mais la police n'a rien à voir là-dedans. La police fait son job, et puis la police, elle enquête sur... Franchement, j'ai jamais vu ou croisé des policiers qui enquêtaient plus sur l'extrême droite que l'extrême gauche. Surtout quand je vous parlais des renseignements généraux tout à l'heure, leur démarche était vraiment toujours d'informer le pouvoir en place. Mmh. Et donc, il n'y avait pas. Et puis, vous savez, s'il arrive quelque chose, s'il y a le moindre événement, et si vous n'avez pas les informations nécessaires, on parle toujours de la rapidité aussi de la police dans une enquête, c'est parce qu'elle est bien informée aussi. Quelle que soit la nature des groupes sur lesquels ils enquêtent.
Ouais, mais enfin, on a l'impression que vous avez vu le nombre de dissolutions de groupes à droite et à gauche.
Oui, mais je vous rappelle,
donc les morts sont des morts.
Je vous rappelle que nous sommes dans une période d'élection
liée à l'extrême gauche et les dissolutions sont à droite.
Et je vous rappelle que nous sommes dans une période d'élection et des élections municipales et qu'il faut ménager la chèvre et le chou. Et vous avez remarqué que vous n'avez pas ce genre d'informations, vous les avez en général pendant ces périodes-là, jamais entre les deux, ou rarement.
Et même pendant les périodes préélectorales de la présidentielle, l'affaire Fillon en est un bel exemple.
Bien sûr.
Ouais. Enfin, y a une raison en tout cas pour laquelle on pourrait s'intéresser davantage à ces groupes d'ultra-gauche, c'est que ce commissaire de police le rappelle, Frédéric Loss, il dit que les Black Blocs, c'est la violence assumée et des affrontements avec les forces de police qui sont considérées
par ces membres de l'ultra-gauche. C'est pas vrai.
Non, il ne dit pas qu'on n'enquête pas dessus. La violence des Black Blocs est assumée, y compris contre les forces de police, et que mais ces membres de l'ultra-gauche sont considérés non comme des forces neutres, ils considèrent leurs ennemis non comme des forces neutres, mais comme des ennemis publics, quoi. Il y a une violence potentiellement mortelle chez ces gens-là.
Alors la violence à gauche n'est pas seulement... du côté des antifas et aussi du côté des écologistes. Quand vous voyez les soulèvements de la terre, c'est un mouvement extrêmement violent. Quand on voit ce qui s'est passé à Sainte-Soline et sur le chantier de l'A69, c'est extrêmement violent.
Et il y avait plein d'antifas qui étaient là.
Alors il y avait des antifas, mais il y avait aussi...
Donc, il y a des liens, évidemment.
Absolument, évidemment.
On l'a vu à Sainte-Soline, notamment.
Évidemment. Ouais. Les associations qui vont se faire lors des municipales vont être assez intéressantes, puisque la gauche soi-disant républicaine, la main sur le cœur, nous dit qu'elle ne s'associera pas avec LFI. Je demande à voir.
Marine Tondelier est déjà en train de s'associer avec, en tout cas c'est que les candidats sont partis, avec des gens de LFI, mais il paraît que ce sont des accords locaux, donc ça compte pas.
Non, et puis
c'est ça. On avait dit qu'il y en avait 60, là on est à 110.
On est d'accord de s'associer avec LFI à condition qu'il ne soit pas violent. Pendant la période électorale.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est extraordinaire.
Absolument.
Allez, on referme ce dossier tragique et on n'en est toujours pas sorti. Je sens qu'on va en parler pendant un moment. Et nous allons ouvrir notre clin d'œil culture.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Jean-François Coulon des Arts, Franck Herriot et Philippe Charlès qui ont préparé leur clin d'œil culture. Qu'est-ce qui veut commencer
Moi, allez, Franck Herriot. C'est très rapide. Non, j'ai découvert un livre fantastique qui s'appelle Voyage au pluriel de Raymond Depardon. Je ne sais pas si ce nom dit quelque chose à beaucoup de gens, mais c'est un très grand photographe.
Ben oui.
Et donc, c'est un livre très lourd, très épais, avec une magnifique impression, parce qu'il y a des photos sur chaque page et très peu de texte. Il y a un texte de phase de présentation signée Raymond Depardon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on replonge dans les... c'est 40 ans d'histoire. Mmh. On replonge dans les années 70, 80, du monde, parce que Depardon a fait le tour du monde. Je confonds toujours, c'est pour l'agence Magnum. Et donc, ce sont des photos extraordinaires. La plupart, toutes d'ailleurs, sont en noir et blanc. Mais c'est vraiment une plongée dans ces 40 ans d'histoire avec des photos qui sont vraiment sublimes, c'est un très très grand photographe.
Ouais,
livre de photos, oui, parce que c'est. Oui, je vous dis, il y a une époque où la photo était un petit peu déconsidérée dans le journalisme. En fait, la démarche du photographe, de ces grands photographes, c'est une démarche de reporter, de journaliste. Mmh. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde et le comprendre. Et
bien
comprendre
sûr, elle perd un petit peu.
Une situation donnée dans laquelle on est versé, il faut ce coup d'œil du photographe, c'est aussi parce qu'il sait ce qui se passe, il comprend la situation. Donc c'est vraiment, puis bon, il y a la beauté visuelle, c'est magnifique. Quoi. Donc vraiment...
vous avez raison de mettre le doigt dessus, parce que c'est vrai que ce métier de photographe qui a fait vendre des magazines comme Paris Match, et qui était vraiment un art journalistique finalement, perd un petit peu avec les réseaux sociaux, le multimédia, etc. Perd un petit peu de son...
Les disparitions des journaux,
son prestige.
Le plus célèbre...
Ça coûte cher.
L'un des plus célèbres étant le dénommé Robert Doineau, qui avait été photographe.
On peut parler des premiers photographes, enfin, comme l'un des plus grands, le père tout, c'est Robert Capa, par exemple, qui a été un très
fondateur de l'agence.
Vous savez, ces fameuses photos du débarquement, ou celle du républicain espagnol qui est tué alors qu'il sort, qui monte à l'assaut. Oui, bien sûr, mais il y en a plein. Chez les Français, ou Patrick Chauvel, des gens comme ça, qui sont des photographes extraordinaires.
Ou Alfred Yacobzadé, dont on parlait tout à l'heure, qui est un magnifique photographe.
On le mérite, parce que la photo, on ne peut pas tricher. Enfin, jusqu'à preuve du contraire.
Avec l'intelligence artificielle, maintenant, on fait ce qu'on veut.
Pendant très longtemps, en tout cas, on ne pouvait pas tricher, parce qu'il fallait être au contact de l'action. Vous n'y étiez pas, vous n'aviez pas d'image. C'était aussi simple que ça.
Allez, je cherche le nom de ce grand photographe reporter qui avait fondé une agence française.
Magnum. La création de Magnum ?
Non.
Il y en a tellement, là. Ouais.
L'agence portait son nom, ça va me revenir.
Nadar.
Pas grave.
Nadar, peut-être.
Non, c'était pas Nadar.
Keystone.
Jean-François Coulon des Arts.
Écoutez, moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le système de l'argent de Daniel Rondeau. Le système de l'argent, c'est un roman, en fait, sur l'effacement du peuple, de nos frontières. Un roman sur l'engagement, sur les dégâts du monde, sans idéal, et qui s'en fait gloire, qui est livré à des dirigeants globalisés, insoucieux, bien entendu, du bien commun.
Extraordinaire.
Alors l'intrigue nous fait voyager dans les capitales de la finance dérégulée, Washington, à Paris, à Moscou, mais aussi dans les colères de la France d'en bas, où les habitants ordinaires tentent de résister à la prédation, à cette machine qui va les écraser. C'est un vrai roman romanesque. C'est très
magnifique.
Bien écrit. C'est très bien écrit. Donc ça vient de sortir, c'est le troisième tome après les mécaniques du chaos, après l'arrière-pays en 2021. Le système de l'argent est le troisième grand volet du triptyque écrit par Daniel Rondeau de l'Académie française. Je vous conseille à tous
l'éditeur.
De le lire. L'éditeur, c'est Grasset.
C'est Grasset.
Voilà, donc je le montre à la caméra. Je vous conseille à tous de le lire. Voilà. Et comme avait dit Pivot une fois dans une de ses émissions, si vous n'appréciez pas le livre, on vous le remboursera.
Voilà.
Allez, une minute. Moi, j'étais voir l'exposition de
moins d'une minute.
Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton. Donc, ce sont d'immenses...
Dans le bois de Boulogne, à Paris.
Absolument. D'immenses peintures avec très belle harmonie de couleurs. Alors, malgré tout... il avait la facilité de peinture parce qu'il projetait des images photographiques pour s'aider à peindre. Donc je vais dire que j'ai eu
Un coup de cœur.
Emballé.
Disons, moyen, une vision assez moyenne de l'artiste qui était pourtant monté au pilori.
Ah, d'accord. Donc ça, c'est pas mal d'avoir des critiques négatives aussi, hein, de temps en temps. Moi, j'aime bien quand on fusille un peu. Là, vous ne l'avez pas complètement fusillé.
Mais non, enfin, je ne me permettrai pas. Il est mort. Non
plus. Vous l'avez descendu, mais pas fusillé.
Je n'ai plus le temps de vous parler du livre d'Alexandre Devecchio, « Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue ». Passionnant, je vous en parlerai la semaine prochaine, édité chez Fayard. Restons courtois. Du vendredi, c'est fini. Merci à vous tous dans ce studio. Jean-François Coulon-Desarts, Franck Herriot, Philippe Charlaise. Merci à la technique qui nous a accompagnés gentiment. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux toutes petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, ne l'oubliez pas, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Donc, nous aider, Radio Courtoisie et Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 13 mars, même heure, même adresse, restons courtois, 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie, avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande, je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.